Voilà, bonsoir à tous. Voilà, je vous invite dès maintenant à ouvrir la parole. Nous allons lire un petit texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et au verset 12. Nous lirons jusqu'au verset 25. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, il est question de Jean-Baptiste, celui qui prêchait en Israël pour que les gens se repentent de ce qu'ils avaient fait de mal, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali. C'est au bord du lac de Galilée. Afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute Israël, dans toute la Syrie. Vous avez vu? C'est pas Israël, c'est la Syrie qui est écrit. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Ce soir, nous allons voir pourquoi Jésus, comme nous l'avons lu au verset 12, Jésus a choisi de son plein gré de s'installer en Galilée. Et vous allez voir qu'il y a tout un enseignement qui peut nous être salutaire à travers cela. La Galilée, si je devais définir un peu cette région en bref, donc c'est la région qui est tout autour du lac de Galilée. Jésus est allé beaucoup de temps, notamment à Capernaum, il a été à Bethsaïda, il a été à Chorazine, il a été dans ces petites villes. L'évangile du royaume a été annoncé. Il faut savoir que cette ville, Capernaum, c'est la plus grande place commerciale et sociale de la région. C'est en gros, en France, ça peut être Toulouse. À Capernaum, il y avait une route qui reliait la Palestine et la Syrie. Et il y avait une garnison romaine qui y était stationnée pour récupérer les péages. Pour rentrer en Israël, il fallait payer. Et il y avait justement Bethsaïda qui était juste à côté, le péage était là-bas. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Dans cette ville, il y avait, de par sa position, la Galilée, notamment Capernaum, Bethsaïda, c'était des villes frontalières. Ça veut dire que la Syrie, c'était à deux pas. Les gens qui étaient de Galilée, c'était des frontaliers. Et ce sont des gens, surtout, qui étaient au contact, justement, des étrangers. Galilée, ça veut dire, à l'origine, terre des nations. Moi, ça me fait un peu penser à la France. Quand je vois la variété de personnes qu'on peut être, ça me fait penser un peu à la France, à notre région aussi. Les origines étaient mélangées. Il faut savoir qu'au temps d'Israël, c'était proscrit. C'est comme si au temps de la Deuxième Guerre mondiale, les Français pactisaient avec l'ennemi, avec les Allemands. Vous n'avez jamais entendu parler de ceux qu'on appelait les collabos. Ils n'étaient pas bien vus. Ils n'étaient pas bien vus à l'époque, les Français qui collaboraient. Voilà, les Galiléens, ils pactisaient avec l'ennemi qui était les Romains. Il y en a qui allaient au péage, ils étaient encore plus mal vus. Ces Galiléens, ils avaient aussi un langage grossier, entre autres. Mais ça, à la limite, c'est rien à côté. Le pire étant qu'ils avaient des pratiques occultes. Ils avaient des croyances qui les amenaient à aller vers l'occultisme, vers le culte des idoles et des démons. c'était des gens, c'était une région qui était complètement enténébrée. De tout Israël, c'était la région la plus enténébrée. Imaginez, quand on vous appelait le Galiléen, ce que ça pouvait vouloir dire. Jésus, lui, s'est installé là. Et au même titre que tous les Galiléens de la région, on l'appelait le Galiléen. Quand on l'appelait le Galiléen, c'était une image pour leur dire que la personne était grossière, que la personne, elle aimait les démons et qu'elle était peut-être même possédée. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'on a commencé à dire que Jésus faisait des miracles par le prince des démons, parce qu'il était de Galilée. La Galilée, c'était la région des ténèbres. Même la roche de Galilée, elle était noire. Vous regarderez sur Internet, la roche de Galilée, c'était une roche noire. Il y a quelque chose avec cette région qui est pas normale. Et pourquoi ces gens ont fini par tomber aussi bas? Pourquoi les gens de Galilée ont-ils fini par tomber aussi bas que d'aller auprès des démons alors qu'ils avaient normalement pour Seigneur et Maître l'éternel Dieu? Je vais vous citer quelques passages de ce qu'on peut trouver dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, au verset 22 jusqu'à 27. Dieu avait demandé au peuple d'Israël les choses suivantes. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, je les ai en abomination. C'est quoi? Ce sont les pratiques occultes. C'est le faire passer leurs enfants par le feu en sacrifice. Ce sont des choses qui sont atroces. Et Dieu était contre ces choses. Et Dieu chassait ses peuples justement à cause de ça. Il leur avait dit aussi, vous serez saints, car moi je suis saint. Il représentait Dieu. Et il devait être saint. Et il disait aussi, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. La Galilée, c'était tout ça. Et ils ont désobéi. Et ils se sont enténébrés. Au fur et à mesure de leur désobéissance, ils se sont enfoncés. Et ils sont tombés très, 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 très bas. À côté de ces choses, on rajoute le fait qu'ils ont pactisé, entre guillemets, avec l'ennemi, justement par ce brassage ethnique. En Israël, il fallait pas. Il y a des versets qui nous le disent, je les ai pas notés d'ailleurs, mais Dieu était contre ces choses aussi. Quand on appelait Jésus le Galiléen, vous comprenez bien que c'était pas pour lui faire plaisir qu'on l'appelait comme ça. Jésus avait tout sauf d'un Galiléen. Jésus, c'était la pureté de Dieu. Jésus, c'était Dieu sur la terre. C'était la pureté incarnée. Et on l'appelait le Galiléen. Jésus, toute sa vie, a été méprisé. Et dans sa mort, il a été méprisé aussi. Jésus, de son vivant, on l'appelait le Galiléen. Et il est mort aussi comme un criminel sur une croix. La croix était réservée au pire des criminels. Et Jésus est mort sur cette croix. Dans son vivant, et dans sa mort, Jésus a été méprisé totalement. Maintenant, qu'est-ce que dit Jésus? Je me suis trompé de page, j'ai fait recto verso, mais c'est pas grave. Maintenant, on va en revenir à ce que disait Ésaïe, parce que Matthieu nous dit que, justement, il y avait quelque chose. On peut lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, les choses suivantes. On va pas lire tout le chapitre. Juste quelques textes sélectionnés. Voilà ce qui est dit sur les Galiléens. Ésaïe chapitre 9, je lis au verset 1er. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Juste avant, on peut lire un petit peu. Si on lit au verset 16, chapitre 8, verset 16. Conserve ce témoignage, scelle cette révélation parmi les disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Ça concerne Ésaïe. Qui représente Dieu, qui est un témoignage. Au verset 19, on lit ceci, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants ? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera, maudira son roi, et son Dieu, il se tournera vers le haut. Puis il regardera vers la terre, et voici la détresse, l'obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Voilà la Galilée. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Maintenant, on passe au chapitre 9 qui dit ceci. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Jésus choisit d'aller en Galilée. Ça, Ésaïe l'a écrit 600 ans avant que Jésus vienne sur la terre. Comment on peut faire pour voir dans le noir? Comment se diriger quand on est dans le noir? On ne sait pas quoi faire. On peut avoir la meilleure des volontés possibles. Si on est dans le noir total, se diriger est très très difficile. Ces gens-là, ils étaient dans cette situation. Dans quel état tu te trouves ce soir? Est-ce que justement tu as joué avec les choses occultes? Est-ce que tu es dans la superstition? Est-ce que tu es dans la magie? Est-ce que tu es allé consulter des voyants? Ou la diseuse de bonne aventure? Ça, ce sont des choses qui sont la marque même des ténèbres. Et les ténèbres sont sur toi si tu as fait ces choses. Est-ce que tu as des angoisses? Est-ce que la nuit, quand tu es dans ton lit, tu es réveillé par des angoisses? Peut-être que dans ta jeunesse ou pas, tu as regardé des films d'horreur et que ces films-là reviennent dans ton esprit. Et que voilà, toutes ces choses sont là. Et finalement, t'empêches de dormir maintenant. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, t'angoissent. Est-ce que tu pratiques des choses qui te dégoûtent et tu ne peux même plus t'en défaire? Est-ce que peut-être tu es dans le mensonge? Et tu ne peux même plus parler sans mentir. Même des personnes qui te sont chères, tu leur mens. Tu n'en es plus capable. Tu mens comme tu respires. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Est-ce que tu es dans une situation où tu peux avoir des pensées noires? Et tu commences à te dire, la vie, j'en ai ras-le-bol. J'ai un langage familier, excusez-moi, mais des fois, est-ce qu'on n'en est pas là à se dire ces choses? Est-ce que tu te sens comme un déchet de la société? Tu te sens méprisé, tu te sens à moins que rien parce que tu te dis que tu as tout raté et que de toute manière, que tu sois mort ou vivant, ça ne changera pas la face du monde. Est-ce que tu en es là ce soir? Tu es un Galiléen et Jésus veut venir auprès de toi. Jésus est venu en Galilée pour s'occuper de ces gens. Et au même titre, peut-être tu es dans cette situation. Et le Seigneur Jésus, au même titre qu'il l'a fait pour les Galiléens, il veut s'approcher de toi et il veut te bénir ce soir. Il veut te relever. Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Dans Ésaïe, au chapitre 53, il est dit ceci, parlant de Jésus, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. » Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Évidemment, il a grandi en Galilée. Pour les gens d'Israël, c'était juste inconcevable. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, Jésus le Galiléen, et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, Jésus tous les jours subissait les critiques, la moindre critique des hommes qui l'entouraient. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, ce sont les hommes qui ont traité Jésus quand il était sur la terre. Est-ce que nous, un jour, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi on était sur cette terre? Et qu'avons-nous fait de cette question? Comment l'homme, qui a toujours connu début et fin, puisse avoir dans son esprit l'imagination même de quelque chose d'éternel, d'infini. Comment ça se fait qu'on arrive à l'imaginer? L'homme a toujours connu la naissance et la mort. Il est impossible, humainement parlant, avec nos yeux, nos oreilles, qu'on ait pu imaginer une chose pareille. Si un jour tu t'es posé cette question, est-ce que tu as eu cette responsabilité de chercher une solution? Cette question-là, c'est Dieu qui nous l'a mise dans notre cœur, pour que nous y réfléchissions et que nous nous approchions de lui. Que disait Jésus? Reprenons notre évangile de Matthieu. Son message était tout simple. Au verset 17, Jésus commença à prêcher, donc en Galilée. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il s'adressait à tous les Galiléens qui étaient à côté de lui, à tous ceux qui étaient dans cet état d'esprit. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns parmi eux qui étaient bien, qui se trouvaient bien. D'ailleurs, il y avait des Juifs quand même. Mais il y en avait aussi tellement qui étaient profondément enténébrés. On a quelques guérisons de démoniaques. Ces guérisons ont eu lieu en Galilée. Il s'adresse à tous. La Galilée était la terre des nations. En Galilée, il y avait des Syriens, il y avait des Romains, il y avait des Juifs, il y avait peut-être même des gens mélangés. Dieu ne fait pas de différence et il parle de la même manière à tout le monde. On est tous perdus. On est tous loin de Dieu parce que un jour, le péché est entré dans le monde et nous éloigne de Dieu. Et Dieu nous dit, repentez-vous. Et qu'est-ce qui accompagne la prédication de Jésus? Il y a des miracles. Alors, la repentance, qu'est-ce que ça veut dire? On peut lire ce passage, dont je vais vous le citer, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, et au verset 9, il dit ceci, dans la version parole vivante, « Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères ou les pervers, débauchés, sensuels, homosexuels, ni pour les voleurs, ni pour les avares, ni pour les escrocs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les accapareurs. On est tous perdus. On est tous perdus. On ne peut pas avoir accès au trône de Dieu parce qu'on a tous plus ou moins connu ces choses, à degrés différents peut-être, mais il suffit d'un tout petit peu et on est perdu. Par contre, il nous est dit ceci, que Dieu est prêt à nous pardonner. Cet autre texte qui est dans le livre des Hébreux nous dit ceci, puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et manquer le but. Comment pourrions-nous nous-mêmes échapper au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que, par indifférence, nous négligions d'y prêter attention? Ce soir, il est question du fait que Jésus soit venu sur la terre. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu auprès des Galiléens? Il est venu parce que il voulait les sauver. Et si Jésus est parmi nous ce soir, sa parole le dit aussi, il désire nous sauver, il désire nous changer complètement. Et ça, il l'a payé cher parce qu'il a dû mourir sur une croix pour nous sauver. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, au verset 15, il dit ceci, il parle à ses disciples et il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas en ce qui est dit de la parole sera condamné. La condamnation existe. On veut bien imaginer qu'il y a un paradis. On a beaucoup plus de mal à imaginer qu'il y a un enfer. Est-ce que ce soir, tu peux dire que si tu venais à mourir, tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu seras condamné ou est-ce que tu seras sauvé? Qu'est-ce que tu fais de ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix? Jésus est mort, il n'a jamais connu le péché, il n'a jamais connu justement ces ténèbres. Lui qui était la lumière, la grande lumière qui resplendissait, c'était Jésus. Jésus est Dieu sur la terre, il a marché comme un homme, il a vécu comme un homme et il est mort sur une croix pour nous sauver. Si je continue ce passage, il est dit ceci, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Jésus était méprisé. Il était appelé à sauver le monde entier. Et là où il a fait le plus de miracles, c'était en Galilée. Ça me fait penser que, voilà, ici, on est dans une église, on n'est pas très nombreux. Sur toute la France, qu'est-ce que nous sommes? Et pourtant, Jésus nous fait grâce de sa présence. Il est écrit dans sa parole que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus, il est là au milieu de nous. Et Jésus n'a pas changé. Alors que, nous l'avons lu, si nous reprenons le verset 24 de ce chapitre, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Dieu a prouvé ce que Jésus disait par ses guérisons, par ses miracles. Et Jésus est là parmi nous ce soir. Nous sommes peut-être dans un petit rassemblement, nous ne sommes pas très nombreux. Et pourtant, Jésus est là et il veut te sauver ce soir. Il veut te guérir ce soir. Il veut te relever. Il veut te délivrer de ce qui te dégoûte, de ce qui t'enchaîne. Le Seigneur veut te délivrer complètement. Au même titre que Jésus a fait des miracles en Galilée. Ici ce soir, il peut agir. Ici ce soir, il peut te délivrer et te sauver. Jésus est vivant. Qui veut croire à cette parole? Qui veut croire à ce que Jésus a dit? Ces paroles que je vous donne, ce ne sont pas les miennes. Je ne fais que me puiser dans ce livre, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Jésus veut nous sauver. Comment faire? Se repentir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'approcher de Dieu et c'est lui demander pardon d'avoir vécu sans lui. C'est lui demander pardon d'avoir voulu vivre juste pour se faire plaisir. Pardon de ne pas avoir fait attention et d'être tombé dans le piège du péché. Nous sommes tous tombés dans ce piège-là un jour, et le Seigneur veut nous délivrer. Il faut simplement s'approcher de lui et croire que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous pardonner. Jésus est mort sur une croix une fois pour toutes. Parce qu'il a souffert, par ce sacrifice qu'il a accompli pour nous, on peut dire, personnellement, je suis capable de dire que si je devais mourir à la sortie de cette église, je sais où je vais, moi. Moi, je vais au ciel. Est-ce que toi, tu peux en dire de même ce soir? Est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux te dire que si tu devais mourir, tu vas au ciel?